la place qu'elle consacre à des penseurs de petit calibre. Penseurs presque toujours situés dans un même spectre idéologique très étroit. Nous non plus. Il n'est pas très étonnant que ce petit groupe de gardes-barrières, les gatekeepers en anglais, ait entendu éloigner Chomsky de ses nombreux lecteurs français potentiels. Car au fond, sa parole et ses écrits ont contredit presque point par point ce qu'eux-mêmes entendaient faire de la pensée et de la politique, en France, mais aussi ailleurs. Ce qui, au début des années 80, défendait les tyrannies pro-occidentales en Amérique centrale, au nom de ce qu'ils appelaient le combat pour le monde libre, pour les droits de l'homme, ce qui signait des pétitions de soutien à Ronald Reagan, largement relayées par la presse française, ne pouvait pas voir d'un très bon œil le travail de Noam Chomsky. Dans un texte pétition publié le 21 mars 1985, Bernard-Henri Lévy, Patrick Vachsmann, Jean-François Revel, Emmanuel Leroy-Ladurie et beaucoup d'autres annonçaient dramatique que le grand combat antitotalitaire se jouait en Amérique latine et plus précisément au Nicaragua. La junte sandiniste, je cite le texte, petit commentaire ici, il ne s'agissait pas d'une junte, mais d'un gouvernement légal qui venait de remporter les élections et qui affrontait une insurrection armée d'extrême droite, la Contra, financée par les États-Unis. La junte sandiniste, donc, n'a jamais caché que son but est l'intégration de toute l'Amérique centrale en une seule et même entité marxiste-léniniste. C'est précisément l'objectif recherché par la stratégie soviétique, forcer les États-Unis à se retirer des régions qui représentent une importance vitale pour eux-mêmes et le monde libre. Fin de citation de cette pétition de 1985. Au même moment, les États-Unis, la CIA dans le cas d'espèce, finançaient les escadrons de la mort au Guatemala, escadrons à l'origine actifs dans une répression sauvage qui provoqua la mort de 200 000 personnes, pour l'essentiel des Mayas, victimes d'une guerre d'extermination parce qu'ils étaient soupçonnés d'être favorables à des groupes insurgés de gauche. Là, nos intellectuels et les médias ne se mobilisèrent pas. La pétition de soutien à l'extrême droite nicaraguayenne date d'il y a 25 ans. Depuis, les mêmes et de nouvelles générations d'intellectuels médiatiques conservateurs ont exercé une véritable police de la pensée, soutenue par la plupart des grands journaux dans lesquels ces grands penseurs conservent table ouverte. Ces intellectuels pour médias ont successivement soutenu la guerre du Golfe en 1991, celle du Kosovo en 1999, celle d'Afghanistan en 2001. Certains ont même appuyé la guerre d'Irak 2 ans plus tard. Avouons-le, les guerres humanitaires, l'humanitarisme de guerre, les frappes chirurgicales, les bavures nécessaires et tous ces autres termes orwelliens ont un peu moins la cote en ce moment. Les désastres de la présidence Bush auront au moins servi à ça. Et de ce fait, Noam Chomsky a moins mauvaise réputation qu'avant. Longtemps, ces éditeurs furent rares. Il leur fallait bien du courage pour oser publier Noam Chomsky. Il y avait Acrassi et Agon, c'était à peu près tout. Dorénavant, tout le monde ou presque publie Chomsky, ou aimerait le faire. Longtemps, les seuls médias qui évoquaient ses travaux furent des périodiques libertaires. Et puis, pour l'essentiel, Le Monde diplomatique et l'émission de Daniel Mermet, Là-bas si j'y suis. Dorénavant, Chomsky est très demandé. Même Le Point, l'hebdomadaire qui compte Claude Imbert, Alain Duhamel et Bernard-Henri Lévy au nombre de ses chroniqueurs réguliers, un choix de gourmet, même Le Point entend publier un entretien avec Chomsky. Sur ce plan, au moins, les choses changent.